Chapitre 2. Le logis rose. Naturellement, je suis en meublé, répondit Pierre Coum, mais j'ai tout de même un ou deux meubles à moi, ce fauteuil dont je vous parle, entre autres. Puis-je le faire apporter ?
Non, fit Thérèse en hochant la tête, il faudra vous contenter d'être assis sur une de ces petites machines dorées qui craquent.
Il lui semblait que l'agréable et obligeant camarade manquait un peu de tact tout de même. Un fauteuil à lui, chez elle, de quoi ça aurait-il l'air? Elle servit le thé, coupa le gâteau, moins à l'aise, moins gaie que tout à l'heure. Un nuage était monté entre eux, les isolait. Thérèse, tout à coup, se sentait dépaysée dans son logis rose. Elle ne comprenait plus si bien quel aimant irrésistible, quelle anormale influence l'avait arrachée à la pension Stephen, l'avait déposée ici. Elle se vit un instant, comme une épave flottante à la crête d'une vague, toute seule, ses câbles coupés. Elle regarda Pierre Coum. Il la regardait aussi, et tous deux s'interrogeaient. Les yeux étroits du jeune homme s'élargissaient, comme pour agrandir leur champ de vision, pour y emprisonner Thérèse, toute, de la tête aux pieds, pour l'encadrer dans un cercle de fascination d'où elle ne put s'échapper. Elle fit un brusque effort, elle demanda, pour dire n'importe quoi,
« Monté, est-il bon ?»«
Oui, très bon. Pas mauvais. Est-ce que je sais » fit-il vaguement. Elle retourna à sa cuisinette pour chercher de l'eau chaude. Quand elle rentra, Pierre Coum était debout. « C'est le moment d'aller dîner. Venez-vous » fit-il. « Il y a un gentil restaurant français pas loin d'ici. »«
Dîner ? Mais je sors de manger un bun et une grosse tranche de votre gâteau. »«
Moi aussi. » Alors on biffe le dîner et je reste ici, j'allume une cigarette. Nous pourrions mettre deux chaises sur le balcon.
Mettez-en une, je vais d'abord desservir le thé.
Tout ce qu'il disait, ces petites phrases insignifiantes, étaient des armes camouflées, l'une esquissant l'attaque, l'autre s'y dérobant. À chaque sournoise avance de Pierre, Thérèse se reculait adroitement sans rompre. Car il était trop difficile de rompre, il eût fallu y mettre de la brutalité. Un simple petit mouvement de fleuret pour écarter l'autre fleuret pouvait suffire. Thérèse s'attarda tant qu'elle put à son prétexte de laver les tasses. Pierre Coum, sur le balcon, fumait rageusement une cigarette après l'autre. Le crépuscule descendait comme une cendre impalpable sur les fuyantes perspectives où des lumières commençaient à clignoter.
« Il va faire nuit, » dit Thérèse en s'approchant de la fenêtre.
Le conseil de la sage Galimard lui sonnait dans l'oreille. « Surtout, pas de visiteurs le soir. »«
Je comprends, vous me mettez à la porte. Le déménagement est fini, je ne vous sers plus à rien. » fit-il une voix qui sifflait entre ses dents serrées.
Sa séance solitaire sur le balcon semblait l'avoir monté à un état d'exaspération qu'il retenait encore comme une bête en laisse.
« Mon Dieu, que vous êtes déraisonnable !» prononça Thérèse, qui prit un peu le ton d'une maîtresse d'école pour cacher sa stupéfaction effarée. « Je suis fatiguée, ne comprenez-vous pas ? Je vais faire encore un peu d'ordre et puis j'irai dormir. »
Subitement, il se dressa, il étendit les bras vers elle, il atteignit, l'attira si fort que sa taille plia. Elle jeta sa tête en arrière pour sauver ses lèvres de celles qui les cherchaient. Il murmurait des mots qu'elle n'était pas sûre de comprendre et qui, cependant, lui faisaient horreur.
« Non, non !» cria-t-elle, étendant ses deux mains pour écarter ce visage aux yeux enflammés.
« Êtes-vous fou ? Pour qui me prenez-vous ? Je me jetterai plutôt du balcon !» Reculant tant qu'elle pouvait, elle se glissait vers la rampe de fer, basse, facile à enjamber. Dans son épouvante, elle était prête à n'importe quelle extrémité. Les mains du jeune homme lui serrèrent la taille encore plus fort, mais ce fut pour arracher la jeune fille au balcon et la jeter dans la chambre sur la chaise en allumettes dorées qui se trouva là. Il s'arrêta une seconde, poussa un immense éclat de rire, puis se précipita vers la porte qui claqua derrière lui. Thérèse resta pantelante et sans bouger pendant au moins 10 minutes. Elle se leva pour fermer machinalement la porte-fenêtre, tourna plusieurs fois autour des meubles sans savoir ce qu'elle cherchait,
finalement entra dans la chambre à coucher et se jeta sur le lit. Un instant après, elle se relevait, courait tourner la clé dans la porte de sa petite antichambre. Il y faisait nuit tout à fait. Dans le salon, une grise lueur filtrait encore à travers la dentelle des rideaux. Pourquoi le dessin d'une palme de cette dentelle s'imprima-t-il dans le cerveau de Thérèse, ineffaçable, toujours vu avec l'affreux souvenir? Une palme aux grandes folioles écartées, entre lesquelles brillait l'étincelle soudain jaillissante d'une vive lampe dans la maison d'en face. Thérèse restait là, les yeux attachés sur la fenêtre. Puis, la gorge serrée, tremblant de tout son corps, elle essaya d'allumer le lustre à gaz, n'y réussit pas, trouva une longue bougie rose sur la table de nuit et la regarda brûler jusqu'au petit jour, où enfin elle s'endormit. À peine sortie de la brume trouble des rêves, Thérèse jeta loin d'elle la courte pointe de satin à grandes fleurs roses, s'assit au bord du lit, promena les yeux autour d'elle. La bougie rose avait brûlé jusqu'au fond du bougeoir de porcelaine et l'avait fendue. « Il va falloir le remplacer », se dit-elle vaguement. Elle s'accrochait à ce petit dégât pour s'empêcher de penser à un plus grand désastre, à un effondrement de toute sa confiance, de tous ses espoirs. Confiance ? Non. Jamais elle n'avait eu pleine et tranquille confiance dans cette énigmatique Pierre Coombe qui voulait qu'elle ne sût rien de lui, de son origine, de ses attaches de famille. Elle ignorait même son adresse. Ah, tant mieux ! Il était plus facile à présent d'effacer cette figure ambiguë comme on efface sur une ardoise un déplaisant barbouillage. Subitement, Thérèse découvrit qu'elle avait faim. On a beau être prostré au milieu des ruines, quand on a 20 ans et qu'on n'a pas dîné la veille, l'appétit crie encore plus fort que l'esprit ne se lamente. Vite, elle enfila son vilain peignoir et courut à sa cuisinette pour allumer le réchaud à gaz et se faire une tasse de thé. La flamme bleue refusa de jaillir. Est-ce que la veille, le lustre du salon n'avait pas refusé aussi de s'allumer? Quelque chose devait être dérangé dans l'appareil. Thérèse referma le robinet. « Je vais être trouvée asphyxiée si le gaz s'échappe, » se dit-elle tragiquement. « S'il revient et qu'il me trouve asphyxiée, ce sera bien fait. Il saura que c'est sa faute. » Son désir, son besoin d'une tasse de thé, résumait en cet instant toute la détresse de sa solitude. Une haine contre le logis rose et contre celui qui l'y avait amené lui tordit le cœur, lui fit tellement mal qu'enfin des sanglots montèrent à sa gorge. Des larmes jaillirent de ses yeux en averses brûlantes. Thérèse n'avait pas pleuré de toute la nuit car l'indignation et la stupeur, alors, l'étranglaient trop. Mais à présent, toute détendue par un petit désappointement, par l'attendrissement sur elle-même, elle pouvait enfin se soulager dans les pleurs. Seule, seule à Londres, séparée volontairement du peu d'amis qu'elle y avait eus, presque sans argent, dépourvue de certificat, elle se heurtait, où qu'elle regardât, à un mur inexorable, bâti et cimenté par sa folie. Mais non, Thérèse, un peu de courage. N'était-ce pas ton pauvre père qui disait sentencieusement « On sort de tout, et ta pauvre maman citant l'Ecclésiaste, cela aussi passera. » Elle se calma un peu en faisant sa toilette. Pour commencer, il fallait descendre chez la concierge et lui demander une explication de l'arrêt du gaz. Puis faire son petit ménage afin que tout fût tiré à 4 épingles pour le gérant. Car elle ferait monter le gérant, elle lui rendrait les clés, elle paierait ses 24 heures d'habitation dans le détestable logis rose. Elle retournerait chez Madame Stephen. Et puis, elle se résignerait à suivre les conseils de Galimard. Elle apprendrait à masser des cuirs chevelus. Se parlant à elle-même, elle prononça à haute voix « cuir chevelu » et cela lui fit pousser un éclat de rire presque strident qui l'effraya. « Est-ce que je vais avoir une crise de nerfs ? Pierre Coombe a ri ainsi hier soir en claquant la porte. » Au même instant, le timbre de l'antichambre résonna. La concierge, le gérant, il n'était guère que 9 heures. Elle alla ouvrir. Pierre Coombe était sur le seuil, pâle, la bouche contractée. « Voilà 12 heures que j'attends pour vous demander pardon, » fit-il bizarrement, d'un ton d'amer reproche. « Puis-je entrer ? Vous ne voudriez pas tout de même que je m'agenouille ici, sur votre seuil ? » Thérèse, muette de surprise, debout dans l'embrasure de la porte, s'écarta un peu, puis se ravisa. « Non, n'entrez pas, nous n'avons rien à nous dire » prononça-t-elle d'une voix glaciale, mais qui tremblait un peu. « Au contraire, j'ai beaucoup à dire, vous ne pourrez pas m'en empêcher, je le dirai ici. » Thérèse crut voir la porte en face, de l'autre côté du couloir, s'entr'ouvrir d'une petite fente. Un voisin, une voisine, elle n'avait pas encore songé au voisin. « Entrez, » fit-elle, reculant dans son étroite antichambre. N'aurait-elle pas dû plutôt fermer le battant et mettre la chaîne devant cet étrange pénitent ? Il entra, poussa la porte derrière lui. « Si vous pouvez me pardonner, dites-le. Si vous ne le pouvez pas, dites-le aussi, que je sache à quoi m'en tenir, » fit-il d'un ton impérieux, bien plus que suppliant. « Je me suis conduit hier soir comme un goujat, comme une brute, mais c'est votre faute. »